VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci de démarrer la journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro ce matin, Nicolas Pinault et Anne Albertson à la une de notre émission.
Les États d'Afrique centrale mettent 50 milliards de francs CFA sur la table pour éradiquer Boko Haram.
Ces dernières semaines ont été marquées non seulement par la poursuite des attaques de Boko Haram au Nigeria, mais également par leur extension à d'autres pays de la région. Cette situation ne peut perdurer.
Lever des sanctions européennes contre le Zimbabwe, les sanctions contre Robert Mugabe demeurent.
Cessez le feu fragile dans l'est de l'Ukraine.
La propreté de Bamako en débat, la ville a passé un contrat de 9 milliards de francs CFA par an avec une entreprise marocaine et ça ne fait pas que des euros.
Mais moi je promets au-delà de la prestation une qualité. Dans une semaine, déjà, on va voir les grandes places déjà propres.
Sans oublier la Minute Éco et le Journal des Sports, les jeunes Maliens en tête de leur groupe B à la CAN des moins de 17 ans au Niger. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Les chefs d'État d'Afrique centrale s'engagent donc à éradiquer Boko Haram lors d'un sommet extraordinaire de la CEAC à Yaoundé. Les États se sont engagés à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Une stratégie commune a aussi été adoptée par l'organisation régionale, comme nous l'explique notre correspondant Jules Lobo.
50 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions de dollars, c'est la somme à mobiliser par les différents États membres pour faire face à la menace Boko Haram. La mise sur pied d'une force multinationale et la création d'un fonds de solidarité sont entre autres mesures prises pour combattre la secte islamiste. Hamad Alami, secrétaire général de la CEAC.
Cette session extraordinaire vise effectivement à mettre en place la stratégie collective de la CEAC de lutte contre le groupe Boko Haram.
Pour l'Union africaine, la situation qui prévaut sur le terrain ne saurait perdurer. Jean-Marie Mokolo, représentant de l'Union africaine aux assises de Yaoundé.
Ces dernières semaines ont été marquées non seulement par la poursuite des attaques de Boko Haram au Nigeria, mais également par leur extension à d'autres pays de la région. Cette situation ne peut perdurer.
La synergie d'action est nécessaire avec l'Afrique de l'Ouest. Idriss Déby Idno, président du Tchad et président en exercice de la CEAC.
Pour vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration.
Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Yaoundé ont trouvé la nécessité de conjuguer leurs efforts pour bouter hors d'état de nuire Boko Haram. Yaoundé, Jules Lobo pour la Voix de l'Amérique.
Sachez aussi que l'armée camerounaise affirme avoir perdu 5 soldats au cours de combats avec Boko Haram. 86 djihadistes auraient également été tués dans ces affrontements dans l'extrême nord du Cameroun. Et puis cité par l'agence France Presse, le colonel Joseph Nouma explique que 1000 personnes sont actuellement écrouées à la prison de Maroua au Cameroun pour des liens supposés avec Boko Haram.
Et toujours dans la lutte contre le terrorisme, les autorités nigériennes affirment avoir arrêté 160 personnes soupçonnées d'être liées à Boko Haram dans la région de Diffa. C'est ce qu'a fait savoir Adili Toro, porte-parole de la police nationale. Ce mardi, plusieurs marches sont organisées au Niger à l'appel du gouvernement pour dénoncer le terrorisme.
À Bangui, le Conseil national de transition a adopté hier par 83 voix l'avant-projet de constitution. Le texte qui prévoit un régime semi-présidentiel doit maintenant être soumis au gouvernement.
En Guinée, 36 personnes ont été condamnées, dont 14 d'entre elles à un an de prison ferme, pour coups et blessures à Forêt-Caria. Selon l'AFP, elles ont été reconnues coupables de l'attaque contre une mission de lutte contre Ebola, conduite par des responsables guinéens et Médecins sans frontières. Au Libéria voisin, c'était la rentrée des classes hier, après des mois de fermeture des écoles suite à l'épidémie d'Ebola. Félix Yepassis Zembrou.
Des centaines de jeunes Libériens ont repris les cours après 6 mois de fermeture des écoles dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. Cette décision se justifie, explique Rosemarie Gray, directrice d'école à Monrovia, la capitale libérienne. Si nous attendons le jour où l'Ebola est éradiqué avant de rouvrir les écoles, je ne pense pas que nous y arriverions. Car maintenant, j'entends dire qu'il y a de nouveaux foyers. Personne ne sait jusqu'où cela ira, a expliqué Mme Gray. L'Ebola a tué plus de 9000 personnes dans les trois pays. La propagation du virus a ralenti, mais l'Organisation mondiale de la santé a appelé les populations locales à la vigilance suite à une récente hausse du nombre de nouveaux cas. Dans son dernier bilan, l'agence onusienne a dénombré 183 nouveaux cas dans la région, 87 en Sierra Leone, 76 au Libéria et 20 en Guinée.
Le cinquième cycle de négociations entre le gouvernement malien et des groupes armés du nord du pays a débuté hier à Alger. Le gouvernement malien et 6 mouvements armés du nord ont déjà mené 4 séries de pourparlers depuis juillet dernier à Alger. L'objectif est toujours de ramener la paix dans le nord du Mali, région toujours instable, malgré une intervention internationale lancée en 2013. La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait menacé de sanctions les éventuels belligérants.
À Kinshasa, une centaine d'organisations de défense des droits de l'homme demandent la libération de militants associatifs. Christophe Ngoyi, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, a été arrêté le 21 janvier. Il est détenu à Makala. Les ONG demandent dans un communiqué sa libération, estimant arbitraire son arrestation et illégale sa détention.
Le Zimbabwe a salué la reprise de l'aide directe de l'Union européenne qui était suspendue depuis 2002. Harare exige à présent la levée immédiate des sanctions prises à l'encontre du couple présidentiel. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
L'aide annoncée par l'Union européenne totalise 270 millions de dollars. Elle servira au financement de divers projets dans l'agriculture, la santé, la bonne gouvernance pendant les 6 prochaines années. À Harare, plusieurs analystes ont relevé l'importance de la décision de l'UE, nous dit Ndimiake Mwakalielie, responsable des programmes de la Voix de l'Amérique pour le Zimbabwe. Les donateurs fournissaient de l'assistance aux ONG, explique-t-elle. Maintenant, c'est le gouvernement qui recevra l'argent pour l'acheminer dans les secteurs de son choix. C'est très significatif. Depuis 2002, le Zimbabwe est sous sanction à cause des abus de droits humains et de la corruption reprochés au chef de l'État zimbabwéen et ses alliés. Des sanctions souvent brandies par Mugabe comme la raison première des déboires du Zimbabwe. Malgré la mesure annoncée hier, les sanctions ciblées contre le président Mugabe et son épouse Grace resteront en vigueur.
Le nombre de smartphones devrait doubler d'ici 2017 sur le continent africain pour dépasser les 350 millions d'appareils connectés. C'est ce que révèle une étude du cabinet Deloitte qui affirme que cette explosion est due à la percée des téléphones à bas prix. Le marché du smartphone va connaître une croissance de plus de 40% en 2015 avec 70 millions de smartphones vendus en Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le retrait des armes lourdes du front dans l'est de l'Ukraine n'a toujours pas débuté. Ce matin, l'Union européenne et les États-Unis appellent à l'arrêt total des combats. Washington a exprimé ses inquiétudes les plus graves quant à la détérioration de la situation à Debaltseve et dans ses environs, selon un communiqué du Département d'État. Des précisions avec Michel Joseph.
Les séparatistes ont proposé aux soldats ukrainiens un couloir leur permettant de quitter Debaltseve à condition que ces derniers déposent les armes. Le porte-parole militaire ukrainien a dit à l'agence Reuters avoir rejeté cette proposition, ajoutant que l'accord de cessez-le-feu de la semaine dernière place Debaltseve en territoire ukrainien. Les rebelles ne cachent pas leur volonté de conquérir cette ville et sa voie ferrée qui relie les bastions séparatistes de Luhansk et Donetsk. La trêve négociée par les leaders ukrainiens, français, allemands et russes prévoit le retrait mardi des armes lourdes de la ligne de front, mais aucun des deux camps ne semble disposé à le faire. Entre-temps, l'Union européenne a ajouté 19 personnes, y compris un ministre adjoint russe de la Défense et 9 entités à sa liste des sanctions en rapport avec le conflit ukrainien.
Barack Obama a exprimé sa solidarité avec le Danemark après les 2 attaques perpétrées à Copenhague. Au cours d'une conversation téléphonique, le président américain et la première ministre danoise et Helle Thorning-Schmidt se sont accordés sur la nécessité d'affronter ensemble les attaques contre la liberté d'expression et la violence antisémite. Hier, 30 000 Danois ont rendu hommage à Copenhague aux victimes de la double attaque qui ont fait 2 morts et 5 blessés ce week-end.
De ce côté-ci de l'Atlantique, le nord-est des États-Unis fait face à des températures polaires. 50 millions de personnes doivent subir des températures bien en dessous des normales de saison. Hier, il a fait par exemple moins 28 degrés Celsius en Pennsylvanie et moins 22 à Cleveland. La neige est aussi de la partie. Près de 1500 vols ont été annulés hier dans le ciel américain. Et ce mardi, le gouvernement fédéral est fermé ici à Washington.
On reste aux États-Unis, en Caroline du Nord. Un grand jury a mis en accusation Craig Stephen Hicks. Cet homme de 46 ans a abattu 3 étudiants musulmans. La justice américaine n'a toujours pas décidé si le tireur avait eu des motivations racistes lors de son crime.
La zone euro a lancé un ultimatum à la Grèce pour qu'elle accepte d'ici vendredi l'extension de son programme de redressement. Le ministre grec se disant malgré tout confiant sur la possibilité de trouver un accord sous 48 heures. Une nouvelle réunion est prévue ce matin à Bruxelles avec tous les ministres des Finances de l'ensemble de l'Union européenne. Cette rencontre était prévue de longue date, mais la Grèce risque une nouvelle fois d'être au centre des discussions.
Un petit tsunami s'est produit ce matin au nord-est du Japon à la suite d'un violent séisme au large de l'archipel. Le tremblement de terre a été évalué un peu plus fort par l'Agence japonaise météorologie à 6,9 sur l'échelle de Richter. Les autorités ayant demandé à des milliers de personnes de quitter temporairement leur maison près des côtes par mesure de précaution. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Parlons à présent économie, c'est la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Évasion fiscale, scandale bancaire, marché public et multinational, réforme juridique en matière commerciale, telles sont certaines des principales préoccupations quant à l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique. Au Sénégal, depuis le vote récent de la loi sur les partenariats publics-privés, les concertations vont bon train pour peaufiner les textes relatifs à l'application du nouveau code voué à ne plus laisser la part belle aux grandes entreprises étrangères. Ces dernières écrasaient les entreprises nationales, a dit à la Voix de l'Amérique le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Morta Lacane.
On demande à toutes les entreprises qui veulent intervenir au Sénégal d'avoir des partenaires avec des entreprises sénégalaises. Nous travaillons sur les textes et nous pensons simplement que ceci permettra de faire travailler effectivement nos entrepreneurs dans tous les grands travaux parce que nous avons des pays qui sont en chantier.
L'Union européenne a octroyé au Zimbabwe la somme de 234 millions d'euros sur 6 ans pour les secteurs de l'agriculture et de la santé. Le pays est frappé de sanctions économiques depuis plus d'une décennie. La convention a été signée ce lundi à Harare. Les sanctions de 2002 avaient provoqué une crise économique sans précédent avec une hausse des prix de l'ordre de 4000% au plus fort de la crise en 2006. Selon Point Afrique, citant le PDG de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, le tourisme a redémarré dans le pays. Plus de 470 000 touristes internationaux ont été enregistrés fin 2014, alors qu'ils n'étaient que 269 000 en 2011 et 380 000 en 2013, ce qui représente 43% de croissance moyenne sur 3 ans.
Place au sport à présent sur VOA Afrique. On commence par du football, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se poursuit au Niger. Le Mali prend la tête du groupe B après sa large victoire 3-1 face au Cameroun. Les Aiglons sont seuls en tête ce matin puisque les Ivoiriens et les Sud-Africains se sont séparés sur un match nul de partout. Pas de match aujourd'hui, mais demain dans le groupe A, les Nigériens à domicile tenteront de se relancer face à la Zambie. La Guinée essaiera de confirmer sa première victoire, mais ce sera dur face aux Nigériens. Évoquons à présent le championnat de Côte d'Ivoire, l'AS Tanda qui poursuit sa course en tête. Nouvelle victoire à l'extérieur hier sur la pelouse de l'Africa Sport, 2-1. L'AS Tanda qui compte 1 point d'avance au classement devant la SEC Mimosa. En Europe, place au 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, décimé par les blessures, accueille José Mourinho et Chelsea pour la revanche de la saison dernière. Favori, le Bayern de Munich se déplace à Lviv pour jouer contre le Shakhtar Donetsk. En cyclisme, la Tunisie à l'honneur pour la première étape de la Tropicale à Missa Bongo. Rafa Chtioui de l'équipe Skydive Dubaï s'est imposé en solitaire hier entre Bongoville et Mohanda, 100 km bouclés avec 1 minute 49 secondes d'avance sur l'Algérien Abdelkader Belmoukhtar et le Français Giovanni Bernodo est lui à 2 minutes 04. Le groupe des favoris est arrivé près de 3 minutes plus tard. La deuxième étape aura lieu tout à l'heure, 170 km entre Okomja et Franceville. Enfin, cyclisme moins rigolo, la rubrique justice. Lance Armstrong, banni à vie de toute activité pour dopage depuis 2012, le champion américain a été condamné par la justice hier à verser 10 millions de dollars à l'un de ses ex-parraineurs. Privé de ses 7 victoires dans le Tour de France, Armstrong va devoir se plier à la décision d'une cour d'arbitrage du Texas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission en ce mardi matin. Partons pour le nord du Nigeria. Boko Haram a distribué des tracts avertissant les populations de s'abstenir de voter lors des élections du 28 mars. La sécurité est encore plus précaire dans la région et des familles fuient pour échapper aux violences. Chez Ruben Dorsil, des troubles sont aussi à craindre après la publication des résultats.
Du delta du Niger à l'extrême nord-est, la période préélectorale est devenue un moment de migration pour nombre de Nigérians. Notre envoyé spécial, Anne Luke, a rencontré plusieurs d'entre eux dans les rues de Kaduna.
Ma femme n'a pas cessé de me harceler depuis 3 mois. Même aujourd'hui, elle m'a appelé pour me dire « Sommes-nous prêts à nous déplacer vers un endroit plus sûr ?»
Personne ne veut mourir pour rien. Moi-même, j'ai l'intention de déménager dans la partie sud de Kaduna, où je ne serai pas exposé aux bruits de guerre, aux tambours de crise, aux gens brûlant des pneus, aux gaz lacrymogènes et autres.
Le dernier vote à l'échelle nationale au Nigeria en 2011 a été salué comme plus crédible que toutes les précédentes élections. Mais plus de 1000 personnes ont été tuées, la plupart lors de violences post-électorales et surtout dans l'état de Kaduna où la politique a suscité des tensions communautaires. Les élections de 2015 promettent d'être les plus âprement disputées dans l'histoire du Nigeria. Le président Goodluck Jonathan et le parti au pouvoir, le PDP, sont confrontés à une forte opposition de l'APC et de son candidat, l'ancien dirigeant militaire Muhammadu Buhari. Les électeurs sont anxieux au sujet de la période post-électorale. Nous allons prendre notre temps, dit cet homme de Bauchi. Nous irons voter et nous allons rester à l'intérieur de nos maisons et nous allons examiner la façon dont le vote a lieu et l'issue de celui-ci. Mais certainement, nous devons voter. Le chef de la police du Nigeria a publié une déclaration ce mois-ci essayant de rassurer les électeurs et leur demandant d'arrêter leur migration vers d'autres régions du pays. Mais les incidents préélectoraux se sont accumulés. Des sièges de partis ont été attaqués à la bombe ou vandalisés. Des partisans de l'opposition disent qu'ils ont été agressés dans l'état de Rivers. Un kamikaze s'est fait exploser à Gombe alors que le président Goodluck Jonathan sortait d'un meeting électoral. La Commission électorale nationale indépendante a reporté les élections de 6 semaines, soit au 28 mars, après que les forces de sécurité ont dit avoir besoin de plus de temps pour combattre Boko Haram dans le nord-est et garantir la sécurité des élections.
Au Burundi, le collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat se dit déterminé à poursuivre ses efforts pour que le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, renonce à briguer un troisième mandat. Dimanche, le conseiller présidentiel Willy Nyamitwe avait déclaré à l'agence France-Presse que le président Pierre Nkurunziza a toujours dit que c'est son parti, le CNDD-FDD, qui choisira son candidat dans le respect de la Constitution. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de maître Armel Nyangere du collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat.
On avait écrit une correspondance à son excellence le président de la République. Donc on attend qu'il nous réponde par voie de la correspondance. Sinon, nous allons continuer à se battre contre le troisième mandat du président de la République. On a déjà lancé une campagne contre le troisième mandat. On a des activités déjà prévues. Et donc, on va se réunir pour voir les propos tenus par le porte-parole du président de la République, pour voir les stratégies qu'on devrait adopter pour cadrer et continuer notre campagne.
Mais selon le conseiller du président, c'est le CNDD-FDD qui choisira son candidat.
Que ce soit le parti CNDD-FDD, que ce soit les membres du conseil de sage, que ce soit quelle structure, nous allons continuer à montrer que le président Nkurunziza ne peut pas briguer un troisième mandat. Vu la constitution de la République du Burundi, vu les accords d'Arusha, vu l'esprit des accords d'Arusha, on voit que ça serait une violation flagrante de la loi.
Et au cas où le président briguerait un troisième mandat, qu'est-ce qui se passerait?
Je pense qu'il pourrait y avoir des difficultés dans la gestion politique au Burundi, puisqu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui se sont exprimées sur le troisième mandat. Il y a surtout l'Église catholique, il y a certaines organisations de la société civile, certains partis politiques, il y a la population qui s'exprime via les médias. Donc, toutes ces catégories de personnes qui s'insurgent contre le troisième mandat du président de la République, je pense que le président devrait considérer cela comme une alerte de la population par rapport à cette violation de la Constitution.
Mais dans le camp du président, on dit que ce dernier n'a été élu au suffrage universel qu'une seule fois.
On dit, dans l'esprit des accords d'Arusha, que nul ne peut dépasser 10 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait 10 ans au pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas prêté serment deux fois? Donc, je pense que ça, c'est une interprétation des personnes qui veulent s'interniser au pouvoir.
Maître Armel Niyongire, il était joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En République démocratique du Congo, le calendrier électoral a donc été publié la semaine dernière par la commission électorale. Les dates des différentes élections et le budget alloué font beaucoup parler dans le Nord Kivu. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Selon Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement PLD en sigle, les contraintes liées à la mise en œuvre du calendrier électoral 2015-2016 sont éloquentes et prouvent à suffisance qu'il y a un glissement en perspective pour qu'il n'y ait pas des élections présidentielles en 2016.
Sur le plan financier, déjà je vois le gouvernement en train de nous dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour organiser des élections. Et comme dans la Constitution, il existe une disposition qui dit que les autorités en place peuvent y rester jusqu'à ce que les nouvelles autorités soient élues, nous risquons d'avoir ce glissement savamment, intelligemment, préparé par la majorité présidentielle, au premier rang de quelle d'ailleurs le PPRD, et je pense que la population doit se préparer à barrer encore la route à cette manœuvre-là.
Réagissant à ces propos, le secrétaire exécutif fédéral adjoint du PPRD au Nord Kivu, Paluku Ezekias Muhaya, estime qu'il faudra laisser aux institutions en place de jouer pleinement leur rôle conformément aux prescrits de la loi.
Je ne voudrais pas qu'on prenne la place des institutions, parce que celui qui publie le calendrier s'appelle la CENI. Celui qui vient de publier la loi, il s'appelle l'instance présidence de la République. Et c'est le gouvernement qui a la charge de chercher les moyens. Donc je ne veux pas qu'on donne à la population l'impression que nous connaissons qu'il y a l'argent ou qu'il n'y en a pas. Et nous connaissons que si ça va arriver, que cela n'arrivera pas. Je ne veux pas qu'on prenne cette charge-là.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu invite plutôt les uns et les autres à se préparer sérieusement aux prochaines élections et de cesser les polémiques inutiles. Marie Chemat Sibaeni est le porte-parole de ce gouvernement provincial.
Le gouverneur des provinces a salué la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État et la publication du calendrier électoral global qui vient mettre fin au suspense et procès d'intention qui régnait au sein de l'opinion.
Pour l'analyste politique indépendant Onesforce Matumba, le peuple devrait bien s'enquérir de pièges tendus par les politiciens congolais. Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Direction Bamako à présent, la capitale malienne est loin d'être une ville exemplaire en matière de gestion des déchets. Pour y remédier, les pouvoirs publics ont signé une convention de 9 milliards de francs CFA par an avec une société marocaine. Ce contrat ne fait pas que des heureux, à commencer par les habitants de Nomobougou, village désigné comme site pour décharger les ordures de Bamako. Enquête dans la capitale malienne du correspondant de VOA Afrique, Kassim Traoré.
Bientôt plus d'ordures dans les rues de Bamako. C'est l'assurance donnée par le président directeur général du groupe Ozone lors de la cérémonie de lancement de la convention entre cette société marocaine et la mairie du district de Bamako. Aziz El Badraoui, PDG du groupe Ozone.
Le contrat prévoit la collecte des ordures ménagères et le transport et l'évacuation vers la décharge de Momambougou. Aussi le balayage manuel et le balayage mécanique par les machines des voies et des rues et des places publiques, ainsi ainsi que le lavage des places et des voies publiques. C'est un engagement, déjà il est contractuel, mais moi je promets au-delà de la prestation une qualité. Dans une semaine, déjà, on va voir les grandes places déjà propres.
La signature de la convention entre Ozone et la mairie du district de Bamako prévoit une ouverture pour les GIE d'assainissement de Bamako. Ces GIE n'ont pas été contactés jusqu'à présent par la société marocaine. Les maires du district pensent que cette situation ne doit pas créer un blocage, car c'est plus qu'un déficit de communication qu'un manque de considération pour les responsables des GIE d'assainissement. Adama Sangaré ajoutera que la convention prévoit les GIE d'assainissement du district.
Au niveau de l'article 41, ça a été clairement dit qu'il faut nécessairement aller avec le personnel de la DCHUVA, aller avec le personnel des GIE afin que cet acquis soit consolidé. Mais quelque part, dans la convention, il est stipulé que Ozone reste responsable de la qualité des prestations sur le terrain. Ozone reste responsable vis-à-vis de l'état du Mali et de la ville de Bamako. Donc à ce niveau, Ozone a dit, si c'est dans ce cadre-là, je souhaite prendre les responsables des GIE, voir dans quelle mesure je vais leur confier des responsabilités et recruter le personnel du GIE. Donc il faudrait nécessairement que cette ouverture d'esprit, ce dialogue continue.
L'autre difficulté à laquelle est confrontée la société Ozone, si l'État a construit à coup de milliards la décharge de Noumoubougou, village situé à une trentaine de kilomètres de Bamako, sur la route de Kouloukourou. La population de cette localité ne veut pas que leur village soit transformé en décharge d'ordures de Bamako. Abdoulaye Koulibaly, élu local.
Le site se trouve dans la cité, c'est dans la ville. Ça, c'est une des raisons. Ensuite, compte tenu de sa proximité avec la rivière qui passe à côté et les maisons qui sont à côté, nous trouvons maintenant que vraiment, actuellement, la décharge-là n'a plus sa raison d'être à Noumbou. Un grave danger. Preuve en est que l'autre jour, quand les 35 camions qui ont déposé des déchets sur le site là-bas, ce jour-là, le village de Tienfala de Noumbou ont eu beaucoup de problèmes parce que ça a dégagé une odeur nauséabonde.
La population de Noumbou est réticente. Elle souhaite la délocalisation de ces sites vers un autre lieu. Pour le moment, les Bamakois suivent de près les actions de la société marocaine qui a un contrat de 9 milliards de francs CFA par an pendant 8 ans au Mali. C'est une première. Espérons que la capitale malienne devienne propre comme le souhaitent les autorités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Bertson et John Ellison. Nicolas Pineau à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Retrouvez-nous également sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
RM Show, Inuganio Giza, Inumono Musique Mouiza, Tougaï Koumou Kiané.
Les amis branchés sur la voix de l'Amérique d'un pays d'Haïti, pas raté, bon ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion qui est un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Montou, RM Show, sur la voix de l'Amérique. Apan, si tu n'as pas tout, en tout cas RM Show, la mise à coup, ça va, Apan, à toute la cité, Apan.
Oyo, Disme, la parade de RM Show, Bane.
Chers passagers de RM Show, on décolle.
Oh oui, let's go, c'est vrai que let's go, nous décollons encore, n'est-ce pas, avec de la bonne musique top 10. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous écoutons de la bonne musique top 10 American music, de la musique qui cartonne ici aux États-Unis d'Amérique, à Washington DC, hein, plus particulièrement ici où nous trouvons les amis. C'est vraiment la musique quand vous entrez dans vos voitures, dans vos maisons, sur vous quittez le boulot, vous allez au boulot, vous rentrez à la maison, vous quittez à l'école, c'est cette musique-là parce que c'est l'hit parade américain et seulement ici sur VOA Afrique. Voilà, c'était Lipsa Moving de Megan Trent. Que de la bonne musique ici sur VOA Afrique. Ce monsieur, il a remporté beaucoup de Grammy, beaucoup de prix. Il est trop fort. Le londonien, le British. Il s'appelle Sam Smith. I am not the only one.
Encore coup Twitch. C'est vrai que le Léopard a présenté jusqu'à la demi-finale. Nous déplorons quand même l'absence de Trésor Poutou. Sinon, nous serions le gagnant de la CAN. Trésor Koutoua nous écrit. Trésor Katwisha nous écrit de Chikapa. Merci beaucoup à Trésor. On continue avec de la bonne musique. Love Me Like You Do de Ellie Goulding. Voilà les amis, c'était de la bonne musique. Top 10 American Music, le numéro 10. Hein. On va terminer avec cela, bien sûr. C'est Shake It Off, encore une fois, de la belle Taylor Swift. On écoute.
Cruel.
to the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah.
Les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Animal with these cameras all in my grill, flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did
graining, graining on that wood. I'm swerving on that. Swerving, swerving on that. Big body been serving all this. Swerving, surfing all in this. Good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love. We be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off of that glue.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that third, I want to see all that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, four plague in a foyer, dub my war hall, slid right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike. In 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice. But y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast, we gon' in. Daddy, daddy, I want you.
so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy grail.
Blue told me, remind you. What the fuck y'all talking about? I'm the new. Caught up in all these lights and cameras. But look what that did, the hammer. God, I like it. Bright lights enticing. Look what it did to Tyson. All that money in one night. 30 mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Oh, the fame keep cheating on me. What I do, I took a back. Fool me twice, that's my bad. I can't even blame her for that. Nothing makes me want to murder. Mama, please just get my bail. I know nobody to blame. Kurt Cobain, I did it to myself.
And we all just entertainers. No, we all just entertainers.
Photo shoots with paparazzi, can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store, I feel like I'm calling it off. Enough is enough, I'm calling it off. Who the f*** I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Slide by in that big body, curtains all to my window. This fame hurts, this chain works. I think back to that same person. If this is all you have to deal with, you deal with this. This ain't work, this light works. Camera snapping, my eyes hurt. Dying back where I was birthed. Up your iris and the IRS. Get the hell up off your high horse. You got the shit to die for. Try yours. Why you mad? Take the good with the bad. Or throw the baby out with that bad for it. You still alive. Still adding new. You survive. Still getting big. You're living a lot. Vanilla wafers in the villa. Illness looking a lot. Michael Jackson's Thriller.
And baby, it's amazing I'm in this space with you. Just can't. Air out my lungs.
Voilà les amis, ben moi je dois atterrir, je dois vous dire au revoir. Merci de rester à l'écoute de cette émission aujourd'hui. RM Show, une émission de VO Afrique. Demain, je vous retrouve avec un autre sujet de la semaine, parce que c'est la semaine du cinéma. Et on va parler cinéma africain, pourquoi pas. Les difficultés des acteurs, des artistes, acteurs, comédiens, qu'en sais-je, directeurs, réalisateurs. On va en parler seulement cette semaine, ici dans RM Show. Je ne peux que vous dire, les amis, je vous adore, je vous aime. Ici VO Afrique, votre gars Roger Moutou de RM Show vous dit, peace Africa.